Bonsoir à tous. Donc, nous continuons notre parcours dans les livres sapientiaux pour ce cours d'Ancien Testament, premier cycle niveau 3. Je n'avais pas tout à fait terminé avec le livre des Proverbes la fois précédente, si tant est que l'on puisse terminer en un nombre restreint de cours. Et donc je vais finir effectivement. J'avais évoqué des thèmes qui figurent dans le livre des Proverbes. J'avais parlé de la relation de l'homme avec son Dieu, de la relation de l'homme avec autrui, et bien sûr, il y a aussi ce qui relève de l'intimité de l'homme et de la qualité de sa vie spirituelle intérieure, autrement dit de son accroissement de sagesse, puisque c'est bien l'objectif du livre. Alors, on trouve, je ne vais pas m'y étendre, mais on trouve un certain nombre de thèmes autour de la garde des paroles, de la maîtrise de soi, de la bonté envers les autres, du combat contre l'orgueil qui entraîne un très grand désordre en l'homme, de la question de la colère aussi. Tout ça, ce sont des thèmes qui reviennent de manière redondante dans la littérature ascétique monastique orthodoxe, et à bon droit, bien sûr, puisque ça fait partie du combat intérieur, du combat contre la paresse, bref, autant de thèmes qu'on trouve éparpillés dans le livre, puisque nous avions vu qu'il n'était pas du tout aisé de faire un plan, bien que nous y sommes contraints pour entrer dans l'intelligence du livre, mais un plan rigoureusement logique dans ce livre des Proverbes n'apparaît évidemment pas, puisque les thèmes s'interpénètrent au point qu'ils sont souvent repris sous des éclairages différents, mais une sentence en appelle une autre et déploie un nouvel enseignement à partir de ce qui a été dit précédemment. Donc, là aussi, comme pour les thèmes précédents, il faut les repérer patiemment dans le livre, qu'il s'agisse de la question de la sagesse de la personne, de la qualité de ses paroles, de la mesure de ses paroles, de la maîtrise de soi, la maîtrise du caractère, de son orgueil et du combat qu'il doit mener contre son orgueil, et de la garde de la colère. Voilà. Donc, vous trouverez ça à la fois dans le premier chapitre du livre des Proverbes, dans le chapitre 26, dans le chapitre 18, dans le sixième chapitre, dans le troisième, dans le onzième, dans le 27e, dans le 19e. Bref, vous voyez, tout cela est présent un peu partout dans le livre, comme d'ailleurs les autres thèmes qui relèvent de la relation de l'homme avec son Dieu et de la relation de l'homme avec autrui. Je voudrais donc terminer là-dessus en disant que le livre des Proverbes, il a un usage liturgique, comme vous le savez. Nous lisons le livre des Proverbes à l'office de vêpres pendant les semaines du Grand Carême, plus précisément pendant la Sainte Quarantaine. Et C'est évidemment pas un hasard, puisque les thèmes que les proverbes déploient, les enseignements que ce livre de sagesse salomonien donne, eh bien tout cela est lié pour nous à la vie chrétienne très concrètement vécue. Et c'est pourquoi il est donné dans l'Office d'évêque pour une des principales lectures durant la Sainte Quarantaine. Alors, je rappelle qu'on le lit du lundi au vendredi, donc les jours de la semaine du lundi au vendredi, et voici comment la lecture du livre des Proverbes se répartit dans les différentes semaines du Grand Carême. La première semaine, donc, les lectures sont tirées des chapitres 1 à 3. La deuxième semaine, des chapitres 3 à 6. La troisième semaine, des chapitres 8 à 10. La quatrième semaine, des chapitres 11 à 14. La cinquième semaine, des chapitres 14 à 18. Et la sixième semaine, des chapitres 23 à 24 et du chapitre 31. Autrement dit, c'est une lecture, sur ces six semaines, c'est une lecture très conséquente du livre des Proverbes à l'Office d'évêque. Mais on le lit aussi, ce livre des Proverbes, dans les offices de fête de saints. On va lire par exemple au chapitre 10 les versets 31-32 lorsqu'on célèbre la fête de Saint Basile le Grand, archevêque de Césarée de Cappadoce. Au chapitre 9, les versets 1 à 12, donc dans les offices à la Mère de Dieu. Et il y a également donc des lectures qui sont faites lors de la circoncision de notre Seigneur Jésus-Christ et lors de la fête de l'Annonciation au 25 mars. Voilà. Donc, précédemment, nous avons vu comment était constitué ce recueil de la sagesse du roi Salomon, définitivement mis en forme sous le roi Ézéchias, sagesse qui est pour l'essentiel un recueil salomonien, comme je l'avais dit, et qui déploie un grand nombre de thèmes, et j'avais insisté en particulier sur la personnification de la sagesse. Et nous avons un mouvement parallèle dans l'Ancien Testament avec, dans le Siracide, la personnification de la parole, la Memra. J'avais insisté là-dessus, évidemment, puisque dans le chapitre 8 du livre des Proverbes, eh bien, la sagesse parlant d'elle-même dit qu'elle était auprès de Dieu depuis la création de toutes choses, qu'elle est de toute éternité auprès de lui, et qu'elle est que par elle, Dieu crée. Elle est le maître d'œuvre de la création. Et évidemment, ceci préfigure, disais-je dans ce cours, ceci préfigure l'un des développements du prologue de l'évangile de Saint Jean, le quatrième évangile. Alors, sachez que le plan de ce cours sur le livre des Proverbes, je vais le mettre, je vais profiter de quelques jours de tranquillité pour mettre le plan du cours en format PDF sur le site Apostolia, et je ferai de même avec le plan de cours qui nous concerne ce soir, c'est-à-dire le livre de l'Ecclésiaste dont nous allons parler maintenant. Donc avec les vidéos et le plan de cours, si vous avez des questions à poser, bien sûr, vous pouvez toujours le faire en utilisant l'adresse du centre Dumitru Staniloae, et je ne manquerai pas de vous répondre, soit directement dans un cours suivant, soit par courriel. Alors, le livre de l'Ecclésiaste, eh bien, il vient dans la catégorie des livres sapientiaux. Il prend place dans nos livres, dans nos Bibles françaises, après justement le livre des Proverbes. Et Ecclésiaste, c'est Kohelet, en fait. En hébreu, c'est Kohelet. La racine, Kaf, He, Lamed. Alors, Kohelet, l'Ecclésiaste, Ecclésiastes, c'est la traduction en grec de Kohelet. Et Kohelet, eh bien, qu'est-ce que ça signifie ? Ça renvoie à la racine Kaal, que je viens de mentionner. Pardonnez-moi. Laquelle racine Kaal signifie assemblée, qui a donné Ecclésia en grec et Église en français. L'Ecclésiaste, donc, contrairement au proverbe que nous venons d'étudier, bon, c'est pas une collection de sentences, encore qu'il y a beaucoup de sentences qui sont énoncées dans le livre de l'Ecclésiaste, mais ça forme plutôt un ensemble assez suivi, bien que là aussi, il ne soit pas aisé de faire un plan extrêmement rigoureux, parce que les thèmes s'interpénètrent. Les thèmes qui, je le rappelle, ne sont pas issus d'une réflexion purement intellectuelle, mais qui résultent de l'expérience même de Salomon. Alors, il est à noter d'ailleurs que le nom hébreu a pris une forme féminine, mais il n'en désigne pas moins un homme. Pourquoi ? Parce que c'est un titre de dignité qui est appliqué à la personne qui en est revêtue. On trouve un procédé semblable d'ailleurs dans le premier livre d'Esdras, au deuxième chapitre, dans le deuxième livre d'Esdras, au septième chapitre. Et donc il est bien sûr employé ici pour exprimer la fonction que remplit Salomon dans ce livre pour instruire l'Assemblée. Alors, maintenant se pose la question du nom de l'auteur. Il y a discussion là-dessus. Bon, d'abord, il faut rappeler que dans la tradition, aussi bien la tradition hébraïque que la tradition chrétienne, unanimement, ce livre a été attribué au roi Salomon. D'ailleurs, il commence bien par ça, hein. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Donc ça renvoie au roi Salomon. Et puis, à partir du XVIIe siècle, la question a été discutée en faisant l'analyse littéraire du texte et Certains exégètes ont estimé d'abord qu'il y avait probablement plusieurs couches rédactionnelles et deuxièmement qu'il est tout à fait possible que ce livre soit l'œuvre d'un auteur éponyme. Bon, je ne vais pas rentrer, et la critique moderne va également dans ce sens, mais il y a des arguments en faveur de la tradition. Mais mon propos, vous savez, n'est pas d'entrer dans ce type de discussion. Il suffit de le savoir, et on peut se reporter aux nombreux commentaires que l'on trouve sur Qohelet l'Ecclésiaste, si d'aventure on souhaite creuser plus avant cette question. Moi, ma perspective de lecture et donc de ce cours, c'est de voir quels sont les thèmes qui sont développés dans ce livre de Qohelet l'Ecclésiaste, quelle est la signification de ces thèmes et à quoi cela nous conduit. C'est plutôt dans la perspective d'une lecture patristique donc, que je me place. Alors l'auteur, l'Ecclésiaste Qohelet, se dit fils de David et déclare qu'il est le roi de Jérusalem, donc cela ne peut convenir que roi Salomon. L'une des raisons pour lesquelles on a pensé à un auteur éponyme ou à plusieurs couches rédactionnelles, c'est que l'on a remarqué que ces deux écrits, je veux parler du livre des Proverbes et de Qohelet l'Ecclésiaste, qui sont attribués au roi Salomon, sont d'un genre très différent et que leur but n'est pas le même. Bon, l'hypothèse est plus que discutable parce qu'il y a de nombreux exemples à la fois dans la littérature sacrée et dans la littérature profane où un même auteur peut produire des écrits relevant d'un genre très différent et qui n'ont pas, à première lecture, de rapport direct entre elles. Voilà, donc si on est attentif d'ailleurs à la lecture du livre de l'Ecclésiaste, on verra qu'il y a à peu près 300 des thèmes des sentences du livre des Proverbes que l'on retrouve dans l'Ecclésiaste. Et je rappelle qu'il y a 513 paroles de la sagesse de Salomon dans le livre des Proverbes. Donc vous voyez, c'est aller un peu vite que de faire l'économie de l'interpénétration entre les deux livres et d'exclure qu'ils soient d'un même auteur au motif qu'ils sont d'un genre différent. À la fois dans le livre des Proverbes, des thèmes qui, en apparence, n'ont pas de lien direct entre eux, et dans le livre de l'Ecclésiaste, qui ont, au contraire, un enchaînement relativement suivi. Rappelons que ces écrits, Proverbes, Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques, qui est attribué aussi au roi Salomon, eh bien, ils correspondent à trois moments de la vie du roi. Le Cantique des Cantiques, c'est la jeunesse, la puissance de l'amour de la jeunesse. Les Proverbes, c'est l'expression de la maturité. Le roi Salomon les donne dans l'âge de la maturité. Et le livre de l'Ecclésiaste, au contraire, c'est dans sa vieillesse. Lorsqu'il mesurait très concrètement, eu égard à son expérience, le néant de la vie sans Dieu, le néant de la vie sans Dieu. Voilà, parce que Salomon, qu'est-ce qu'il cherche ? Qu'est-ce qu'il cherche, le roi Salomon, à nous dire dans ce livre de l'Ecclésiaste ? Je résume d'abord, avant d'entrer dans le plan du livre, du moins dans ce qu'on peut repérer du plan du livre, je résume quelques grandes idées-forces. D'abord, le Qohélète l'Ecclésiaste nous dit qu'il a cherché le bonheur, qu'il a cherché la sagesse, et vous savez que le roi Salomon était estimé le roi ayant acquis la sagesse de bonheur et étant le roi le plus sage de tout l'Orient au point que sa réputation le précédait, qu'on venait le consulter précisément pour cela, de partout. Et donc, il a cherché, Qohélète l'Ecclésiaste, le bonheur, la sagesse, et il en tire dans ce livre une forme de déconvenue, une forme de tristesse. Mais ce n'est pas une déconvenue ou une tristesse qui débouche sur du nihilisme, comme dans la pensée moderne, dans la pensée actuelle. C'est une déconvenue qui prend la mesure de la vanité des choses lorsque la vie est complètement éloignée de Dieu. Et il nous dit que, en dehors de Dieu, tout ce que l'on entreprend, tout ce que l'on cherche, tout ce que l'on quête, même la recherche de la joie, tout cela est vain, tout cela est vanité. Et il poursuit, donc ça, on trouve ça dès le début du livre de Qohélète l'Ecclésiaste. Il poursuit en disant que la recherche des plaisirs de cette vie, elle est inutile. Non pas que la vie soit mauvaise en elle, il n'est pas gnostique, Qohélète l'Ecclésiaste. Hein, les plaisirs de la vie, ce sont des dons de Dieu, donc il ne les méprise pas. Il n'est pas dans une perspective de dualisme philosophique où tout ce qui relève de la vie charnelle et temporelle de l'homme n'aurait aucune valeur. Mais cette recherche, eh bien, elle ne peut pas combler, au fond, le cœur de l'homme. L'homme court après tout cela, même souvent de manière très frénétique, et pourtant, ça ne comble pas son cœur. Beaucoup de gens l'ont dit, hein, pas seulement le roi Salomon dans sa sagesse, beaucoup de gens l'ont dit, des pères de l'Église ont dit, et puis tout homme sensé d'ailleurs peut le dire à son tour sur la base de sa propre expérience. Toute cette quête est quelque part vaine parce qu'elle n'est pas en mesure de combler le cœur de l'homme. Ce qui peut vraiment combler le cœur de l'homme, c'est plutôt la recherche de la communion avec Dieu. Ce qui n'exclut pas les dons que Dieu nous fait dans cette vie et dont nous devons user avec mesure et discernement. Ce qui est remarquable également, c'est que dans ce livre, Qohélète l'Ecclésiaste cherche à attirer notre attention sur la vanité que les hommes placent, la vanité que les hommes placent dans la confiance en eux-mêmes. dans leur propre force, dans leur propre capacité, et y compris dans leur propre sagesse, ou ce qu'ils estiment être leur propre sagesse. Quatrième chose auquel aussi Coëlette l'Ecclésiaste nous conduit, c'est à, puisqu'il y a une certitude de la mort, auquel aucun être humain ne peut échapper, eh bien, cela rend toutes les réalisations de l'homme en dehors de Dieu, cela rend toutes ces réalisations vaines. Elles sont vanité et poursuite du vent, dirait-il. Il répète souvent ces deux mots, vanité et poursuite du vent. Alors, il veut nous signifier également, dans tout le développement, alors ces thèmes s'interpénètrent, le livre a 12 chapitres, et il y a une interpénétration constante de ces thèmes, l'idée que la sagesse humaine, elle est limitée. L'homme est limité, de toute façon, et sa sagesse, si du moins il en a acquis une, elle est limitée également. En ce sens qu'elle n'a pas toutes les réponses. L'homme, il n'est pas donné au pouvoir de l'homme d'avoir toutes les réponses sur les énigmes de l'univers, sur les mystères de Dieu et sur les mystères de sa propre vie, parce que dans sa propre vie, il n'est pas maître lui-même de sa propre vie. Donc, sa sagesse est limitée. Et s'il veut vraiment acquérir la sagesse avec un grand S, eh bien, il faut qu'il sache que celle-ci ne se trouve qu'en Dieu, dans la parole de Dieu. Et je rappelle que cette parole de Dieu, ce n'est pas un livre, cette parole de Dieu, c'est une personne, c'est le Christ Seigneur qui est sagesse de Dieu, précisément. C'est pour ça que quand nous avons les lectures à la liturgie, c'est toujours précédé de l'exclamation diaconale « sagesse » et pour nous prévenir que la sagesse vient à nous par la lecture solennelle de l'Évangile, par la lecture précédente de l'Épître, la sagesse vient à nous. Nous allons, elle vient à notre rencontre et nous allons entendre sa parole. Alors à partir de ces thèmes, évidemment, il y a Coëlette l'Ecclésiaste qui nous fait part de son expérience personnelle, qui nous livre des observations les plus diverses sur lesquelles nous allons revenir. Donc je rappelle qu'il n'est pas a priori aisé de déterminer un plan rigoureux, puisque tous ces thèmes s'interpénètrent, mais de manière vivante. Ils ne font pas l'objet d'un exposé théorique. Ils résultent de l'expérience que Coëlette l'Ecclésiaste a faite dans sa vie et qu'il nous livre au jour de sa vieillesse. Voyons maintenant, quand même, essayons de repérer un plan, puisqu'il y a tout de même un continuum à l'intérieur de ce livre. D'abord, il y a un prologue qui est constitué des 11 premiers versets du premier chapitre, qui commence ainsi par les paroles que j'ai déjà citées, paroles de Coëlette, ou l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Suivi immédiatement du verset 2 qui contient les paroles célébrissimes entre toutes et qui est le thème central du livre. Vanité des vanités, dit Coëlette, vanité des vanités, tout est vanité. Et nous retrouverons d'ailleurs cette sentence à la fin du livre, quand commencera l'épilogue, au verset 8 du chapitre 12. Ce verset, ces paroles mêmes vont ouvrir l'épilogue, bien que l'épilogue n'est pas la répétition du prologue, mais développe également d'autres choses, comme nous le verrons. Alors, nous savons, il suffit d'ouvrir les différentes traductions de nos Bibles, de nos Anciens Testaments, nous savons que ce verset 2 du prologue a été traduit de différentes manières, mais quels que soient les mots utilisés, c'est toujours le même thème central qui est exprimé. La vacuité des œuvres humaines, la fragilité des œuvres humaines. Et c'est d'ailleurs sans doute pour cela que, alors je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais autrefois, je dis ça, autrefois c'est sûr, aujourd'hui c'est sous réserve, je ne le sais pas, mais que Qohelet l'Ecclésiaste est lu dans la tradition juive à la fête de Soukhot, la fête des tentes, où les juifs dressent des cabanes avec des toits de branchage pour souligner la fragilité des choses, fragilité des choses. Et c'est bien le thème, d'ailleurs, de Qohelet l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Des traductions différentes ont été proposées. Fumée, buée, vapeur, haleine, brouillard. Bon, autant de choses qui nous renvoient à la même réalité, quelque chose qui est évanescent, qui s'évanouit très rapidement, qui n'a pas de consistance propre, qui ne laisse finalement aucun souvenir. Alors, à partir de là, on peut repérer un certain nombre de développements dans le livre qui sont liés donc aux cinq points que j'ai évoqués précédemment. Et là, bon bah, vous trouverez, si vous lisez des commentaires de Qohelet, vous trouverez un grand nombre de commentateurs, d'exégètes qui sont à peu près d'accord sur cette répartition. Donc je reprend dans l'ordre ces différentes sections. Premièrement, le prologue, chapitre 1, versets 1 à 11, qui fait lui-même partie d'une section qui est plus vaste et qui va jusqu'à la fin du deuxième chapitre. Donc on peut subdiviser ça de la façon suivante. 1 à 11, je l'ai dit. 1, 12 à 18. Où il est question d'abord dans cette première section, donc de 1 à 18, je parle des versets là, hein, du premier chapitre, d'abord de la vanité de la sagesse humaine, ensuite de la vanité des biens terrestres, de la vanité de leur jouissance et de tout ce qui s'y rattache. Tout, finalement, tout ce qui retient l'homme vers, on pourrait dire, c'est pas exprimé comme ça dans le livre, mais vers sa nature mortelle, animale, même presque, tout ce qui tire l'homme vers le bas. Parce que si l'homme ne se consacre qu'à ces choses qui ne sont que vanité, buée, fumée, vapeur, haleine, brouillard, eh bien, il travaille pour la mort, quoi. Il ne reste rien de tout cela. Tout cela est vanité et poursuite du vent, comme il le dit. Tout ce que l'homme entreprend en étant séparé de Dieu est poursuite du vent et vanité. Alors, il faut dire un mot quand même sur la sagesse humaine, parce qu'on l'a vu également dans le livre des Proverbes. Hein. On a vu que dans le livre des Proverbes, au recueil salomonien, c'était ajouté des sentences de la sagesse humaine qui avaient été rajoutées par le roi Ézéchias qui a donné la forme définitive à ce livre des Proverbes. Bon, donc ça nous autorise à parler un peu de la sagesse humaine et à ne pas non plus la considérer comme quantité absolument négligeable. Ce serait vraiment dommage d'en arriver à une position pareille. Puisque dans la sagesse d'Israël sont insérées, intégrées des sentences de la sagesse humaine d'autres peuples des environs, c'est bien que ces sentences de sagesse ont une dignité qu'il nous faut considérer. C'est bien qu'il y a des expressions hautes de la sagesse humaine. Je sais bien que ça peut paraître étrange de dire ça en une époque où les expressions hautes de la sagesse humaine n'ont plus cours. Malheureusement, alors qu'il y a une riche tradition dans ce domaine-là, mais il faut néanmoins ajouter, dans la perspective de la révélation, que même ces expressions, nous dirions, nous, chrétiens orthodoxes, que même ces expressions hautes de la sagesse humaine, elles ont besoin d'être baptisées, en quelque sorte, ces expressions les plus nobles de la sagesse humaine. Elles ont besoin d'être baptisées, c'est-à-dire d'être mises en lien avec la sagesse divine, qui doit être la vraie source de toute sagesse humaine. Faute de quoi, la sagesse humaine ne mérite pas véritablement ce nom. Parce qu'alors, elle serait vanité et poursuite du vent. Donc, en apparence, mais en apparence seulement, les versets de ce prologue, de ce premier chapitre de Qu'est l'Ecclésiaste, semblent exprimer un profond scepticisme. Mais pas du tout un scepticisme dans le sens philosophique, hein. Parce que le scepticisme philosophique exclut Dieu complètement. Mais en apparence, on peut parler d'un scepticisme pratique au moins. Quel profit y a-t-il pour l'homme de tout le travail qu'il fait sous le soleil? Verset 3. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Rien de nouveau sous le soleil. Verset 9. Là, on a l'air d'être pris dans une espèce de stoïcisme pratique, où tout se répète, le cycle de la nature va vers la conflagration finale, et tout redémarrera exactement comme avant. Donc, une sorte d'expression de monotonie qu'engendre la répétition cyclique du mouvement de la vie et, quelque part, de l'impossibilité d'y échapper. Ou bien, en tout cas, on peut, à première lecture, tirer cette conclusion. Et le malheur veut que tout ceci n'est que vanité, puisque, je cite, « il n'y a aucun souvenir des temps anciens. Quant aux suivants qui viendront, il ne restera d'eux aucun souvenir chez ceux qui viendront après. » Verset 11. Donc, aucun souvenir, parce que tout se perd irrémédiablement, tout simplement. Ce qui, expérimentalement, d'ailleurs, n'est pas complètement faux. Plus l'histoire avance, plus les souvenirs des temps passés deviennent extrêmement ténus. Et même, il y a une circonstance aggravante dans les versets 12 à 18 du premier chapitre. Même si on cherche à user avec sagesse, avec mesure, avec discernement de toutes les choses que la vie offre, donc qui sont des dons de Dieu finalement, eh bien, cette recherche, nous dit Qu'est l'Ecclésiaste, elle devient source d'ennui. Je cite, « J'ai eu à cœur de chercher et d'explorer par la sagesse tout ce qui se fait sous le soleil. C'est une occupation de malheur que Dieu a donnée au fils d'Adam pour qu'il s'y applique. » Verset 13. Et puis, comble, la quête de la sagesse elle-même semble conduire à une impasse. Je cite, verset 18, « Car en beaucoup de sagesse, il y a beaucoup d'affliction qui augmente le savoir et qui augmente donc la douleur. » Donc, vous voyez, c'est une forme de désillusion profonde et de désespérance, mais, je le rappelle, en ayant cité l'un des points principaux, qui ne conduit pas au nihilisme de la pensée actuelle, à la dérision et au nihilisme de la pensée actuelle. Je vous invite d'ailleurs à lire la philosophe Chantal Delsol qui a écrit de très belles pages là-dessus, à ce sujet. Pourquoi ça n'y conduit pas ? Parce que ça parle de l'expérience de Qohelet l'Ecclésiaste, bien sûr, mais c'est dans la perspective de la vie coupée, séparée de sa source, c'est-à-dire de Dieu. À partir de chapitre 1, verset 12, jusqu'à chapitre 2, verset 26, on voit comme une confession de Salomon. D'ailleurs, la traduction œcuménique de la Bible a mis comme sous-titre pour ce passage « Confession du roi ». Mais c'est bien de ça dont il s'agit. Parce qu'il confesse quoi ? Il confesse son expérience. Il parle en lui-même, il dit « Je me suis dit à moi-même, allons que je t'éprouve par la joie, goûter au bonheur. » Chapitre 2, verset 1. Et il poursuit. J'ai entrepris, il décrit ses œuvres, tout ce qu'il a entrepris. J'ai entrepris de grandes œuvres. Je me suis bâti des maisons. J'ai planté des vignes. J'ai acheté des esclaves et des servantes. J'ai eu des domestiques. Je devins grand. Je m'enrichis plus que tous mes prédécesseurs à Jérusalem. Mais je me suis tourné vers toutes les œuvres qu'avaient faites mes mains et vers le travail que j'avais fait en tant de mal à faire que j'avais eu tant de mal à faire. Eh bien, tout cela est vanité et poursuite du vent. On n'a aucun profit sous le soleil. Vous voyez toujours cette expression de désillusion de toute vie qui est conduite sans Dieu. Donc ça, c'est tiré du chapitre 2, les versets 1 à 11. Et Qohelet s'interroge d'ailleurs à ce propos et dit « Ce qui arrive à l'insensé m'arrivera aussi. Pourquoi donc ai-je été si sage ?» La question mérite d'être posée, puisque là, c'est la perspective de la mort. Le sage comme l'insensé, ils seront égaux dans la mort. Bon, donc ça leur arrivera à tous les deux. Et pourquoi donc ? Quelle utilité y a-t-il à chercher la sagesse dans cette perspective ? C'est ça la question qu'il pose. Je me dis, et il répond, je me dis à moi-même que cela aussi est vanité. Chapitre 2, verset 15. Il ajoute, que reste-t-il à celui qui aura travaillé sous le soleil ? À rien. Cela aussi est vanité. Chapitre 2, verset 23. Et là, on peut dire dans ce même chapitre 2 que la désespérance semble à son comble quand il dit « Rien de bon pour l'homme, sinon de manger et de boire, de goûter le bonheur dans son travail, j'ai vu, moi, que cela aussi vient de la main de Dieu. » Alors, la deuxième section, on a vu là, grosso modo, le plan de la première section, mais dans lequel s'interpénètrent les différents thèmes du livre, architecturés autour de ce thème central qui est vanité, vanité, tout est vanité. La deuxième section, ce sont les chapitres 3 à 5, et il est ici question de quoi ? De la destinée de l'homme, et du fait qu'en fin de compte, grande découverte pour tous ceux qui se croient maîtres de leur vie et qui pensent que leurs œuvres sont impérissables, découverte choquante pour cela, s'agissant de l'homme et du fait et de sa destinée, en fin de compte, il n'en est pas maître. Pourquoi ? Colette l'Ecclésiaste répond, parce qu'il est dans la main de Dieu. Et c'est un thème évidemment qui est répété à souhait dans toute l'Écriture sainte. Il est dans la main de Dieu, comme par exemple dans l'Apocalypse, dans l'adresse aux sept églises de l'Asie proconsulaire, le Christ montre que ces églises sont dans sa droite, qu'il en est le maître, qu'il en est le souverain. Il dépend, cet homme, totalement de sa providence, la providence divine, quand bien même il n'en est pas conscient, parce qu'il est guidé dans les joies comme dans les épreuves, il est guidé insensiblement à ses yeux par la providence divine qui détermine toute chose en définitive. Ça ne veut pas dire que, bien que ça puisse apparaître comme tel, tout soit lié à une stricte prédestination. Parce qu'il y a la liberté de l'homme qui est affirmée. Tout cela, toute l'illusion qui réside de cette expérience que le roi restitue en des termes souvent très désabusés, de tout cela, il résulte que l'homme a un choix à faire, et nous verrons quel est ce choix. Et cela dépend de lui, pour le coup. Il n'est pas forcé à ce choix. Il peut vivre dans la vanité, il peut vivre dans la poursuite du vent, mais il lui est offert un autre choix. Néanmoins, si on veut vivre sous le regard de Dieu, il convient de discerner quelle est la volonté de la Providence, quels sont les décrets de la Providence, et en les discernant, de s'y soumettre. Mais de s'y soumettre volontairement, librement. Ce ne sont pas des décrets dictatoriaux qui s'imposent à quelqu'un ou à une communauté qui serait privée de liberté. C'est une soumission volontaire et consciente à ces décrets de la Providence dont il est question ici. Et puis dans cette section, il y a au début du chapitre 3, il y a cette fameuse énumération commencée par le verset 1, « Il y a un temps pour tout ». Et donc, ça vaut la peine de la lire, cette section. Il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour démolir et un temps pour construire, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter, et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres, et un temps pour en ramasser, un temps pour embrasser, et un temps pour s'éloigner des embrassades, un temps pour chercher, et un temps pour perdre, un temps pour garder, et un temps pour jeter, un temps pour déchirer, et un temps pour coudre, un temps pour se taire, et un temps pour parler, un temps pour aimer, et un temps pour détester, un temps pour la guerre, et un temps pour la paix. Alors évidemment, Ces paroles sont d'une très grande profondeur et elles sont universellement connues. Et donc elles ouvrent le troisième chapitre de la deuxième section. On en est toujours là au plan, ou au moins à ce que l'on peut repérer comme plan dans le livre. Donc, vous avez remarqué que ça fonctionne sous la forme de paires de contraires. Et ça embrasse toute l'activité humaine. Donc, se soumettre volontairement et consciemment au décret de la Providence, discerner la volonté de la Providence divine qui maintient tout. Donc, sans le maintien que donne la Providence divine de toute vie, eh bien, toute vie disparaîtrait. Pourquoi discerner cette volonté et s'y soumettre? Eh bien, tout simplement parce que l'homme n'a qu'une vue infiniment partielle du dessein de Dieu, non seulement pour lui-même, nous dit Coëlette, mais pour l'humanité tout entière et pour son salut. Alors, on sait bien sûr que dans la Nouvelle Alliance, le Christ, le Verbe de Dieu, le Verbe éternel de Dieu, cette sagesse de Dieu qui était de toute éternité dans le sein du Père, eh bien, a pris la nature humaine, a fait sa kénose, c'est-à-dire que s'est abaissé jusqu'à nous. C'est la fête de la très sainte Nativité que nous allons célébrer sous peu. Et nous a du coup révélé le dessein de Dieu pour notre salut et a accompli, surtout, il a accompli ce dessein de Dieu en vue de notre salut. Il n'empêche que les profondeurs de ce dessein de Dieu, elles nous restent aussi mystérieuses. Elles nous restent aussi mystérieuses. Il ne nous est pas donné de tout comprendre. Et donc, l'attitude de foi, ça consiste à le confesser, justement, et à se soumettre à la volonté divine, au décret de la Sainte Providence. Il fait toute chose belle en son temps. À leur cœur, il donne le même sens de la durée, sans que l'homme puisse découvrir l'œuvre que fait Dieu depuis le début jusqu'à la fin. Verset 11 du chapitre 3. Donc vous voyez déjà, la Coëlette l'Ecclésiaste perçoit ce qui va s'ouvrir par la suite avec la Nouvelle Alliance. Le verset 13 affirme néanmoins que ce qui arrive d'heureux à l'homme est un don de Dieu. Donc j'ai parlé des dons que l'homme reçoit dans sa vie et ces dons, ils proviennent de Dieu. Donc, si Coëlette l'Ecclésiaste nous décrit tout le caractère illusoire de toute vie en dehors de Dieu, de toute construction en dehors de Dieu, qui n'est que vanité et poursuite du vent, eh bien, il nous rappelle aussi dans le même temps que beaucoup de belles choses nous sont données et que ce sont des dons de Dieu qu'il ne convient pas de le mépriser. Et très concrètement, il dit « Et puis, tout homme qui mange et boit et goûte au bonheur de son travail, en son travail, cela est un don de Dieu. » Mais pour reconnaître ça, et là on rejoint une thématique fondamentale qui ouvrait d'ailleurs le livre des Proverbes, il y a une condition sine qua non. C'est que l'homme ait la crainte de Dieu en toutes circonstances. Pas facile, hein ? Qu'il ait la crainte de Dieu en toutes circonstances et qu'il se confie, ça c'est l'attitude de la foi, la confiance, se confier, c'est avoir la foi, pistis, c'est foi et confiance, et qu'il se confie à la volonté de Dieu, qu'il cherche dans sa vie à l'accomplir, et qu'il s'en remette à la Providence, qui pourvoit à toute chose, et dans le sens d'un plus grand bien pour l'homme, même si ça passe par des épreuves ou des souffrances, mais c'est toujours dans le sens d'un plus grand bien pour l'homme, parce que Dieu veut le bien de l'homme. Toujours. Et même s'il l'appelle à rectifier son attitude, à sortir des ornières dans lesquelles il se trouve, s'il le rudoie, c'est toujours dans la perspective d'un plus grand bien. Et il est dit au verset 14, « Je sais que tout ce que fait Dieu, cela durera toujours. » Donc c'est une référence à ses lois immuables. « Il n'y a rien à y ajouter, ni rien à en retrancher. » Et Dieu fait en sorte qu'on ait de la crainte devant sa face. Donc, vous voyez, l'interpénétration des deux livres, Proverbes et Ecclésiaste, Coëlette, dans ces thèmes fondamentaux. Et l'Ecclésiaste, donc, reprend ce thème de la crainte de Dieu, qui est le commencement de la sagesse, qui est exposé au début du livre des Proverbes, et il nous enseigne que par nos seules forces, nous ne pouvons pas grand-chose en vérité. Pourquoi ? Parce que c'est la providence divine qui gouverne toute chose. C'est une illusion, c'est une auto-divinisation de l'homme par lui-même, donc c'est une idolâtrie fondamentale qui est l'un des plus grands péchés, que l'homme croit que par ses propres forces, il puisse se mettre à la place de Dieu et qu'il puisse, en quelque sorte, éterniser ses œuvres. Thème qui revient également de manière redondante dans toute la grande prophétie d'Israël et dans les enseignements du Seigneur dans l'Évangile. Au contraire, donc, l'Ecclésiaste nous invite à nous laisser guider par cette providence. Parce que, invisiblement, elle nous conduit. Et ce, malgré les épreuves de la vie que nous pouvons traverser, elle nous conduit en vue d'un bien pour nous. Elle nous conduit dans la purification de l'âme. Elle nous conduit dans une intimité croissante avec de l'âme avec son Seigneur. D'où la nécessité d'être constant et persévérant, deux thèmes que l'on retrouve dans les deux livres, dans ces deux livres de sagesse salomonienne. Parce que Dieu, il faut être persuadé que Dieu nous guide vers un plus grand bien. C'est pas la peine d'insister là-dessus, c'est aux antipodes, exactement aux antipodes de la pensée moderne. Et il est dit au verset 17 du troisième chapitre que Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a là un temps pour chaque chose et pour chaque action. Donc ça nous renvoie ici au thème du jugement, à Dieu qui est maître du jugement, et ça nous renvoie aussi, par allusion, à ce qu'on appelle dans l'Écriture le jour du Seigneur, à la fois dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, le jour du Seigneur, qui est un thème, pour ce qui concerne le Nouveau Testament, est un thème à double entente, c'est-à-dire qui renvoie évidemment au huitième jour, à l'homme ressuscité du huitième jour, celui que nous célébrons bien sûr tous les jours de notre vie, mais en particulier dont nous célébrons la résurrection le dimanche, parce que la résurrection est fêtée au Saint-Jour de Pâques, mais tous les dimanches sont résurrection du Seigneur dans l'année liturgique. Mais ça nous renvoie aussi au jour du Seigneur, au grand jour du Seigneur, à la consommation des siècles, au jour redoutable du jugement, comme le disent nos livres liturgiques. Alors, les chapitres 4 et 5, eh bien, ils nous renvoient à différents thèmes qui relèvent, justement, qui illustrent ce qui vient d'être dit, et qui nous renvoient aux expériences personnelles de Qohelet l'Ecclésiaste, qui nous renvoie aussi à la formulation d'observation qu'il fait à partir de ses expériences, aux conseils qu'il donne, parce que il faut bien être persuadé que l'expérience que Qohelet l'Ecclésiaste fait et qui est consignée dans ces 12 chapitres de son livre, eh bien, cette expérience écrite, relatée, elle nous est donnée pour nous éclairer, parce que finalement tout homme est amené à faire l'expérience de la vacuité des œuvres accomplies en dehors de Dieu, et en quelque sorte, Qohelet l'Ecclésiaste veut nous en faire l'économie en nous relatant cette expérience. Et il y a un verset qui résume bien ce déploiement de différentes observations à partir de son expérience personnelle. C'est dans le verset, dans le chapitre 3, verset 8. « Je vois, moi, que tout le travail, tout le succès d'une œuvre, c'est la jalousie des uns envers les autres. Cela aussi est vanité et poursuite du vent. » La tristesse de la solitude. Alors moi, je travaille, je me prive de bonheur, c'est pour qui ? C'est aussi... cela aussi est une mauvaise affaire. Cela aussi est vanité. Là, c'est lorsqu'il parle de la solitude de l'homme. Et qu'il vaut mieux être en relation avec les autres. Le pouvoir politique lui-même n'échappe pas à l'amertume de cette expérience. Pouvoir politique dont le roi parle dans ses vieux jours, hein, et sur lequel il est sans illusion, alors que très souvent le pouvoir gonfle d'orgueil ceux qui en sont les détenteurs, parce que ce pouvoir a une propriété remarquable, c'est... d'isoler, très souvent, pas toujours, mais très souvent, d'isoler ceux qui en sont les détenteurs, d'isoler de relations authentiques ceux qui en sont les détenteurs, parce qu'ils ont des relations, mais ils ont des relations avec des courtisans, avec des gens qui sont des flatteurs, avec des gens qui disent ce qu'ils veulent entendre. Donc ce ne sont pas des relations authentiques. Et puis l'exercice du pouvoir peut être lié avec une volonté de divinisation, au sens de cette prétention à laisser une trace dans l'histoire. Bon nombre de gens du pouvoir sont préoccupés par ça. Quand ils arrivent vers la fin de leur pouvoir... Eh bien, ils sont préoccupés par ça, laisser une pseudo-trace d'éternité dans les livres d'histoire, qu'on se souvienne d'eux dans les livres d'histoire, alors que souvent l'histoire humaine est un grand magasin de l'oubli, finalement. Eh bien, voyez-vous, le roi, dans ses vieux jours, il est sans illusion par rapport à l'exercice du pouvoir qu'il a eu en main. Et ce pouvoir lui-même n'échappe pas à tout ce qui vient d'être dit. Quand il nous dit, par exemple, « Mieux vaut un gamin indigent mais sage qu'un roi vieux mais insensé qui ne sait plus se laisser conseiller. Admirable description de bon nombre d'hommes politiques de tous les âges de l'humanité. Et ces paroles de sagesse que l'on retrouve en Proverbe 20-25 vont dans le même sens, que ta bouche ne se précipite pas et que ton cœur ne se hâte pas de proférer une parole devant Dieu, car Dieu est dans le ciel et toi sur la terre, donc que tes paroles soient peu nombreuses. Vous voyez, le pouvoir peut corrompre aussi par ce côté-là, c'est-à-dire que il peut engendrer une maladie bien connue tout au long de l'histoire humaine. C'est pas simplement quelque chose qui serait advenu dans les temps modernes, c'est beaucoup plus ancien. C'est que d'avoir une parole sur tout. D'avoir une parole sur tout. Alors maintenant, c'est évidemment amplifié par les moyens modernes de communication, mais d'avoir une parole, si possible définitive, sur tout. Eh bien là, au contraire, le roi qui est sans illusion sur ce pouvoir dit que tes paroles soient peu nombreuses. Tes paroles soient peu nombreuses. La troisième section, donc le chapitre 6, qui commence au chapitre 6, qui va au chapitre 8 jusqu'au verset 15, eh bien, c'est la description, enfin, c'est une description d'une espérance, laquelle ? Celle de trouver de la joie, de trouver du bonheur dans le présent. Dans le présent siècle, dans l'espace-temps de notre vie dans ce monde, mais à la condition d'accepter ces choses qui nous sont données comme Dieu nous les donne. Donc on revient au discernement de la volonté divine et à la soumission volontaire et consciente à cette volonté divine qui s'exprime pour nous et à laquelle il convient de se soumettre. En fait, qui sait ce qui est le mieux pour l'homme pendant l'existence, pendant les nombreux jours de sa vaine existence ? Qu'il passe comme une ombre, qui indiquera donc à l'homme ce qui sera après lui sous le soleil ? Chapitre 6, verset 12. Et on trouvera d'autres énumérations, mais vous savez, bon, ce cours n'a d'utilité que si vous entrez véritablement dans le texte et vous ne contentez pas simplement des extraits du texte que je nomme dans mon propos. Et mon propos peut éventuellement vous être utile si vous entrez vraiment dans une lecture attentive du texte. Donc au chapitre 7 qui suit, il y a sept comparaisons entre le bonheur et le malheur. Et ça fait la balance avec les sept mentions qui ont été faites, les sept couples de contradictions qui ont été faites au chapitre 3, lorsque Qohelet l'Ecclésiaste nous décrit « il y a un temps pour tout ». Et donc, c'est sept couples de contraires qui embrassent toutes les dimensions de la vie humaine. Et bien là, ça fait le pendant au chapitre 7. Dans la conclusion, d'ailleurs, de ces comparaisons, il est rappelé, je dis rappelé, il est redit ce qui a déjà été dit. L'homme est impuissant de par sa volonté propre à découvrir le dessein de Dieu, le dessein que Dieu a sur le monde. Je cite 7, verset 14. « Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, regarde. Celui-ci autant que celui-là. Dieu les a faits de façon que l'homme ne puisse rien découvrir de ce qui sera après lui. » Et donc il convient de vivre selon le principe de la sagesse. Le principe de la sagesse, nous le connaissons, c'est la crainte de Dieu. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu, avait déjà dit le livre des Proverbes, répété par Qohélète l'Ecclésiaste. C'est en vivant dans la crainte de Dieu C'est en vivant de cette crainte de Dieu que Dieu donne à l'homme au milieu des multiples écueils de sa vie la force de l'accomplir. Il est bon que tu tiennes à ceci sans laisser ta main lâcher cela. C'est-à-dire tenir à la justice et à la sagesse de façon équilibrée. Il y a cette notion d'équilibre aussi qui parcourt l'ensemble des 12 chapitres de Colette l'Ecclésiaste. Et il ajoute « Car celui qui craint Dieu fera aboutir l'une et l'autre chose. » Et c'est très fort, ça. « La sagesse rend le sage plus fort. » D'autres traductions disent « ou lui prête assistance. » Rend le sage plus fort que 10 gouverneurs présents dans une ville, car aucun homme n'est assez juste sur terre pour faire le bien sans péché. C'est les versets 18 et 19 du chapitre 17. Alors non seulement l'homme est impuissant de par sa volonté propre, ou en tout cas il s'illusionne complètement s'il est gouverné que par sa volonté propre, il ne restera rien des œuvres qu'il a accomplies sous le soleil. Et ce qui est valable pour une personne humaine est valable pour les sociétés aussi, les sociétés sans Dieu qui ne comptent que sur leur propre force, sur leur puissance technologique. Eh bien, l'histoire montre qu'au bout du compte, il ne reste pas grand-chose. Rien ou pas grand-chose. On remarque d'ailleurs que dans l'histoire des civilisations humaines, toutes les sociétés hautement développées sur le plan technologique, mais qui ont renoncé à leur fondation spirituelle, sont appelées à périr, non pas sous le coup des barbares, mais à s'effondrer par l'intérieur. A implosé. Et si barbare il y a, les 10 barbares ne font que mettre le point final à cette implosion. Ça, toute l'histoire humaine nous l'enseigne. Donc croire que les générations qui viennent à la vie sont supérieures aux générations qui les ont précédées, ça aussi c'est vanité et poursuite du vent. Alors, il y a ce constat, l'homme est impuissant de par sa volonté propre à pénétrer le mystère du dessein de Dieu. Mais en plus, c'est redoublé par le fait que le juste lui-même ignore tout de l'heure du jugement. Il ignore tout de l'heure du jugement, cela nous l'est dit en particulier dans l'Évangile. Et cela donc semble indiquer que Dieu, par le fait que l'homme ignore tout de l'ordre du jugement, celui qui se sera soumis volontairement et consciemment à la volonté divine, celui qui aura obéi au décret de la Providence, les personnes comme les sociétés, eh bien, trouveront récompense auprès du maître du jugement, leur obéissance sera récompensée. Et Colette dit en 8, verset 5, « Celui qui observe le commandement ne connaîtra rien de mauvais. Le temps et le jugement, le cœur du sage les connaît. » Pas la connaissance immédiate qu'on peut imaginer, mais connaissance profonde, intérieure. Mais tout cela donc appelle la vigilance de l'homme. Il y a un grand malheur pour l'homme. Il ne sait pas ce qui arrivera, qui lui indiquera quand cela arrivera. Personne n'a de pouvoir sur le souffle vital pour retenir ce souffle. Personne n'a de pouvoir sur le jour de la mort. Il n'y a pas de relâche dans le combat. Chapitre 8, versets 6b à 8c. Donc, conclusion du roi dans ce chapitre, conclusion qui s'impose, c'est la faillite de toute sagesse humaine séparée de sa source divine. C'est la faillite de toute sagesse humaine séparée de Dieu. Alors, j'ai vu toute l'œuvre de Dieu. L'homme ne peut découvrir l'œuvre qui se fait sous le soleil, bien que l'homme travaille à la rechercher, mais sans la découvrir. Et même si le sage affirme qu'il sait, il ne peut la découvrir. Verset 17 du 8e chapitre. Quatrième développement, donc chapitre 8, verset 16, jusqu'au chapitre 12, verset 7. Et là, on a une reprise d'un certain nombre de thèmes qui figuraient dans les cinq points les plus importants et l'expérience qui y est adossée, le récit de l'expérience, des expériences qui est adossée, dans les sections précédentes. Donc, nous avons vu l'impossibilité pour la sagesse humaine d'approfondir l'œuvre de Dieu. Deuxièmement, nous avons vu que tout est soumis à la providence divine. Au chapitre 9, verset 1, il est dit « Oui, tout cela, je l'ai pris à cœur, et voici tout ce que j'ai éprouvé, c'est que les justes, les sages et leurs travaux sont entre les mains de Dieu. » Là, c'est une conclusion qui tire. Jamais aussi un sort identique échoit aux justes et aux méchants, car tout devant lui est vanité. C'est le verset 2 du chapitre 9. Et là, il est très clairement fait allusion à la perspective du Shéol. Le Shéol, c'est le séjour des morts, c'est l'Hadès des Grecs. Et Kohelet ajoute, au bon et au pur comme à l'impur, à celui qui sacrifie comme à celui qui ne sacrifie pas, il est du bon comme du pécheur, de celui qui prête serment comme de celui qui craint de le faire. Tous ont la même destination. Donc, chapitre 9, versets 2, B et C. Toujours dans ce chapitre 9, nous trouvons une autre allusion au jugement. Et Kohelet, là, dans cette allusion, il laisse à penser que la manière dont Dieu juge, eh bien, elle est voilée, elle est cachée, voire même incompréhensible aux yeux des hommes. Donc, les représentations anthropomorphiques que la littérature populaire a pu produire dans ce domaine, eh bien, elles ne correspondent pas à la réalité. Parce que Dieu est le juste juge. Mais l'homme, avec sa raison limitée, eh bien, cela lui est caché, cela lui est voilé, voire incompréhensible. Alors, on peut tirer de tout cela quand même l'idée, et vous savez que ce livre a donné lieu à de nombreuses exégèses, mais il y a aussi des gens très éminents, des écrivains très éminents, ou des philosophes et tout, qui ont réfléchi sur ce livre, sans même d'ailleurs partager la foi, et qui ont vu ces thèmes sous l'angle d'un non-sens de la vie humaine, finalement. Si tout est vanité, si tout est muet, brouillard, haleine, fumée, quel est le sens de la vie humaine? Est-ce que la vie humaine n'est pas frappée au coin du non-sens? Le nihilisme philosophique qui est né et a grandi à partir du XVIIIe siècle et qui a prospéré jusqu'à nos jours, eh bien oui, il postule ça, que la vie humaine a un non-sens, il n'y a pas de Dieu à son origine, elle est l'œuvre d'une sorte de nature qui allierait le hasard et la nécessité. Elle n'a pas de fin autre que d'accumuler tout ce que Coëlette, l'Ecclésiaste, qualifie de vanité et de poursuite du vent. Donc un non-sens, et on sait que dans la philosophie contemporaine, il y a vraiment des nihilistes, bon, c'est pas tous les philosophes contemporains, grâce à Dieu, mais il y a dans cette philosophie contemporaine présence de nihilistes patentés. Et on sait aussi que, par exemple, au XIXe siècle, les formes de nihilisme dans la pensée russe, par exemple, le nihilisme était présent dans la pensée russe au XIXe siècle et que ce nihilisme-là a fait le lit du bolchevisme qui est venu ultérieurement au début du XXe siècle. Coëlette nous dit que la sagesse est malgré tout un bien, même si elle est largement méprisée. Vous savez, la sagesse, elle est souvent... Bon, il y a une sagesse populaire, comme on dit, mais la sagesse, elle est souvent aussi méprisée. Ce que dit la bouche d'un sage plaît, mais les lèvres de l'insensé le ravalent. Le début de ses propos est sottise et la fin de ses propos folie mauvaise. C'est en 10, verset 12-13. Donc là aussi, on remarque la proximité avec le livre des Proverbes. Mais le nihilisme n'est absolument pas la perspective de Coëlette l'Ecclésiaste. Malgré l'accumulation de pensées qui paraissent tout à fait négatives, tout cela ne débouche pas sur le nihilisme qui est finalement une pulsion de mort. Là, ça débouche au contraire sur la vie. La perspective de Salomon écrivant ses paroles dans sa vieillesse, c'est une perspective de vie, parce qu'il rend compte, comme je l'ai dit, de son expérience, et il veut préserver ceux qui viennent après lui de cette amertume, de cette douleur, de cette expérience de la vie séparée de Dieu. Et donc le chapitre 11, il nous montre qu'il y a un au-delà de cette tristesse que génère la vie humaine sous le soleil. Il y a un au-delà de cette tristesse qui est identifiée, qui est l'apparente de cette vanité, de cette buée, de cette fumée qui s'attache aux œuvres qu'accomplissent les hommes quand il s'auto-divinise, en quelque sorte. Cet au-delà, c'est celui de la confiance en Dieu. Ses chemins à Dieu sont incompréhensibles, inaccessibles à l'homme. On ne peut connaître d'eux que ce que Dieu lui-même nous en révèle, et pas plus, parce que Dieu est au-delà de toute compréhension. Toute la tradition apophatique l'affirme de manière constante, mais cet au-delà de cette tristesse et de cette vanité qui n'est poursuite du vent, c'est néanmoins la confiance en Dieu. De même que tu ignores le cheminement du souffle vital comme celui de l'ossification dans le ventre d'une femme enceinte, ainsi tu ne peux connaître l'œuvre de Dieu, lui qui a fait toutes choses. Chapitre 11, verset 5. Autrement dit, Coëlette nous dit que l'homme doit accepter de vivre dans cette ignorance. S'il est habité de la crainte de Dieu, il accepte de vivre dans cette ignorance. Parce que les plans, les desseins de Dieu le dépassent, dépassent sa propre compréhension. Et on s'était expliqué dans le cours sur les proverbes, sur ce que signifie la crainte de Dieu qui n'a rien à voir avec un sentiment de peur psychologique. D'où, et là on approche de la fin du livre, l'importance du chapitre 12 où il est dit « Souviens-toi, si tu veux faire l'économie de ce que moi, le roi Salomon, j'ai fait, que j'ai éprouvé moi-même, bien que j'étais un roi puissant, la vacuité des choses, si tu veux faire l'économie de ça, comment, par où ça peut passer ?» Eh bien, Coëlette l'Ecclésiaste dit « Souviens-toi de ton Créateur au jour de ta jeunesse, avant que ne viennent les mauvais jours et que n'arrivent les années où tu diras « Je n'y ai aucun plaisir ». Chapitre 12, verset 1. Donc, crainte de Dieu, mémoire du jugement dernier, observance des paroles de vie, donc les commandements divins, et au verset 13 du chapitre 12, donc à la fin du livre, il est dit « Crains Dieu, observe ses commandements, et car c'est là tout l'homme ». Voilà ce que l'on peut dire. Je rappelle aussi que dans le vocabulaire qu'utilise Coëlette l'Ecclésiaste, quand Dieu est nommé, ce n'est pas Adonai, c'est A-Elohim. Il n'est pas nommé sous le nom de Adonai, le nom ineffable, qu'il est le juste juge. Il est nommé 37 fois dans les 12 chapitres. Et que derrière ce thème fondamental qui parcourt tout le livre, qui est la vanité de toute chose, et poursuite du vent, eh bien, il est énoncé une vérité plus haute, une finalité plus haute que chacun trouve dans la crainte de Dieu, dans la garde des commandements. Et ce faisant, c'est intéressant aussi à souligner, c'est par là que procède l'apprentissage de la vraie sagesse. Cette sagesse qui est selon Dieu, et je rappelle pour finir que le substantif sagesse est un nom divin. C'est un nom divin. Je l'ai dit tout à l'heure, lorsque dans la liturgie, avant les lectures, il y a cette exclamation « sagesse », c'est pas pour rien, c'est pour nous avertir, et d'ailleurs on l'accompagne de « soyons attentifs » ou « tenons-nous droit », c'est pour nous avertir que la sagesse vient à nous. La parole qui va être lue, c'est la sagesse qui vient à nous. Et cette sagesse, elle a un nom, c'est Jésus-Christ, puisque Jésus-Christ est le Verbe éternel de Dieu, et il est sagesse de Dieu. Voilà ce qu'on peut dire sur le plan et les thèmes de ce livre de Coëlette l'Ecclésiaste. Alors, comme pour les proverbes, je mettrai un plan en format PDF, un plan de ce cours et donc de ce livre de Coëlette l'Ecclésiaste. Je mettrai un plan écrit sur le site apostolia.tv. Merci de votre attention.